Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers amis, nous avons cette parole de Jésus qui ouvre notre carême, qui continue de l'ouvrir, en tout cas on a commencé au mercredi décembre. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Il y a une réalité humaine, on ne peut pas être tout le temps en tension, on ne peut pas être tout le temps en train de faire des efforts le plus qu'on peut, de relire tout le temps sa vie, de réfléchir, de faire le point. Si on est tout le temps en train de faire le point et de se remettre en cause, bon, c'est compliqué d'avancer, ce ne serait pas sain, je pense. Mais l'Église nous fait le cadeau, une fois par an, de nous donner 40 jours, où on va prendre le temps de faire le point et de faire un peu plus d'efforts là où on pense qu'il y en a besoin. Et en fait, il y a un piège du carême. Le piège, ce serait de vivre le même carême chaque année. Vous voyez, c'est mis à part pour les tout petits, on a déjà quelques carèmes d'ancienneté. Si on commence notre carême comme l'année dernière, comme il y a 5 ans, comme il y a 10 ans, ce serait terrible. Ça veut dire que soit qu'on n'a pas bougé depuis 10 ans, soit qu'on vit le carême comme, ben voilà, tous les ans, le carême, c'est ça, mais comme quelque chose qui nous laisserait immobile intérieurement. Et peut-être la première chose, il y a cette phrase de Jésus, les temps sont accomplis, de prendre le temps de s'arrêter. Il y a un psaume qui dit, arrête et vois que je suis Dieu. De faire un peu le point, de regarder là où on en est, de prendre le temps d'entrer en carême, en fait. Il y a ce phénomène qui arrive chaque année, souvent on se réveille autour du quatrième dimanche de carême, parfois même au rameau, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment commencé et on fait des efforts dans les 15 derniers jours. Et donc la confession la semaine de Pâques, un chrétien sur deux dit « Bon, ben en fait j'ai mis 3 semaines à commencer à me mettre dans le carême. » Ben cette année je propose qu'on commence un peu plus vite et de prendre le temps de faire comme un « voilà, où est-ce que Dieu m'attend cette année ?» Et ce temps, je vous propose 2 choses très pratiques. La première, alors je sais qu'on a parfois des rythmes de dingue et que ça coûte, mais c'est important. moins d'une demi-heure, à mon avis, c'est pipeau. On prend pas le temps de vraiment se poser et de faire le point sous le regard de Dieu en 10 minutes. On va rester sur la superficie, mais on va pas descendre en nous. Et la deuxième chose, c'est de le faire, si vous pouvez, dans une église. Au moins dans un coin prière chez vous, de le faire sous le regard de Dieu. C'est pas seulement une introspection où je m'examine, c'est j'essaye de me voir tel que Dieu me voit et de regarder où est-ce que Dieu m'attend. Et alors le problème, la question finalement, c'est que faut-il convertir en moi ? Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je change dans ma vie cette année ? Le souci, c'est pas tellement que Dieu ne réponde pas. Je crois que si on le fait sérieusement, assez vite, on va voir où est-ce que Dieu nous attend. Le problème, soyons honnêtes, c'est qu'on a un peu peur de se convertir. On a peur soit de voir en face qu'il faudrait changer, on a peur de changer, soit on a peur de ne pas y arriver. Et dans peut-être ce point qu'on peut prendre chacun pour soi, pour le carême, je crois qu'il y a trois fausses bonnes idées. La première, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense où Dieu nous attend. C'est pas ce que je veux, c'est ce que Dieu veut. La deuxième, c'est pas ce qui nous blesse ou ce qui nous humilie le plus qui est là où Dieu nous attend. Et la troisième, alors c'est évident mais quand même, c'est pas là où on est déjà converti que Dieu nous attend. Bon, on va prendre quelque chose, dit, bah là quand même Seigneur, ok, il faut que je m'y mette. Et alors il y a ce convertissez-vous que Jésus nous dit, et qu'est-ce qui se passe? Comme dans l'évangile, le diable arrive, où le vieil homme en nous ne veut pas changer. Vous savez, c'est ce qu'on a parfois quand on veut se confesser, on se dit il faudrait que je me confesse. On a aussitôt tout un tas de fausses bonnes raisons de ne pas se confesser. On est d'une inventivité effrayante. On est capable de trouver 15 arguments pour dire qu'en fait, la confession c'est bien, mais pas pour moi ou pas aujourd'hui. Au moment où on va pour se convertir, il y a une part en nous qui freine. C'est plutôt bon signe. Si ça freine en nous, si ça ne veut pas avancer en nous, c'est sans doute qu'on va dans la bonne direction. Et cette conversion, voilà, on a un choix à poser, on va en prendre des moyens. Et quand je parle de conversion, le carême, c'est pas seulement un effort humain. Se convertir, c'est se tourner vers Dieu. Je prends deux images d'une banalité terrible, mais pas si bête que ça, je pense. On va se dire, voilà, je fais le constat, je me suis posé, objectivement, je mange trop de chocolat. C'est terrible, j'entame une tablette, je la boulotte dans la journée, sans aucun souci, il faut que je change. Donc, mon effort de carême, c'est de ne pas manger de chocolat. Et ma prière de carême, ça va être « Seigneur, aide-moi à moins manger de chocolat. » Alors là, on est sur un carême complètement égocentré. Humain et juste humain. Maintenant, on va prendre de la hauteur. Je mange trop de chocolat. Pourquoi je mange trop de chocolat? Eh bien, parce que c'est ma petite consolation. Ça me fait du bien. C'est une compensation, ça me rassure. Mais est-ce que c'est pas Dieu qui devrait me consoler? Est-ce que c'est pas Dieu qui devrait être mon soutien? Est-ce que je ne dois pas retrouver cette caractéristique de Dieu qui est le consolateur, celui que je viens voir lorsque c'est dur? Est-ce que le chocolat a pas pris, c'est ridicule mais c'est un peu vrai, la place de Dieu dans ma vie? Bon ben mon axe de carême, ça va être de retrouver dans ma prière, dans ma vie chrétienne, Dieu comme celui sur lequel je m'appuie, celui qui me console. Et finalement, on aura peut-être tout simplement moins envie de chocolat. Je vous en prends une autre image. Alors vous allez dire, Don Erwan, vous êtes pénible, ça fait deux fois, mais... Bah oui, mais j'en parlerai pas dimanche prochain parce que je serai pas là. J'arrive en retard à la messe. Bon, bah faut que je fasse un effort, j'arrive à l'heure. Mais non, on creuse. Pourquoi j'arrive en retard? Bon, parfois il y a un impondérable, ça arrive à tout le monde, bien sûr. Mais peut-être ça dit quelque chose du finalement je prends pas Dieu si au sérieux que ça, puisqu'il y a d'autres choses où je suis à l'heure, mais la messe j'arrive pas. Donc dans la cause, dans ma relation à Dieu, il y a un truc qui doit bouger. Et puis il y a dans la conséquence, j'arrive en retard. Donc un, j'ai pas eu le temps d'entrer dans le silence de la messe, une forme d'intériorité, j'arrive, je suis tendu parce que j'ai galopé pour arriver en plus à la bourre. Et du coup, je démarre la messe avec un sentiment de culpabilité. Je me sens pas très à l'aise devant Dieu parce que ça fait 3 dimanches d'affilée que j'arrive en retard. Et du coup, je démarre la messe pas serein et ça gâche ma vie eucharistique. Vous voyez, vraiment qu'on prenne le temps de creuser chacun pour soi pour aller un peu plus un beau carême, quoi. Et la dernière chose, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Pour croire dans l'Évangile, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut le lire. Je vous invite, si vous n'avez pas lu un Évangile en entier depuis, je vais être gentil, 5 ans, eh bien, lisez un Évangile pendant le carême. Prenez Saint Marc, 25 pages. Et quand on voit une grosse Bible, on a peur, mais quand on prend l'Évangile tout seul, c'est vraiment tout petit. De réapprendre à connaître l'Évangile pour mieux y croire. Et puis, croyez l'Évangile, en fait, ça a 2 sens. Croire à l'Évangile, c'est croire que ce que dit Jésus, c'est vrai, c'est solide, et c'est un chemin, si je le suis, qui va vraiment me rendre heureux, qui va vraiment m'aider à m'accomplir dans ce que je suis. Que ce que dit Jésus est vrai, et plus je m'appuie dessus, plus je me rends compte que c'est... Là, on a quelque chose de solide. Et puis, croyez à l'Évangile. Évangile, étymologiquement, c'est Evangelion, c'est la bonne nouvelle. Croyez à l'Évangile, croyez dans cette bonne nouvelle que nous apporte le Christ. On associe le carême à l'austérité, à l'effort et du coup à la tristesse. D'où l'expression « avoir une tête de carême ». Tête à l'envers. Non, le carême, c'est aussi une joie. Finalement, je vais remettre ma vie dans le bon sens. Je vais donner du temps à Dieu et je vais me rendre compte qu'en fait, ça me fait du bien. Pour me convertir, je vais rééquilibrer des choses dans ma vie qui ont pris une place trop grande et je vais découvrir que ça ne me rendait pas heureux en fait, ça m'enfermait. Et je vais, en tout cas, je nous le souhaite pour nous tous, de redécouvrir en croyant à l'Évangile, en mettant ça en œuvre dans notre vie, que le chemin du bonheur, on le cherche partout, en fait, on l'a ici au contact de Jésus. Amen.